Moi, je suis très dubitatif sur sa réalité et sa possibilité. J'ai même écrit un livre qui s'appelait « La grande illusion » et je continue à penser qu'il y a beaucoup d'illusions autour de ces débats. Il y a des efforts qui sont faits, des petites choses qui progressent, mais des choses tellement petites par rapport à ce qui pourrait se faire ou ce qui devrait se faire selon les opinions de chacun, qu'effectivement, on doit se garder de tout enthousiasme, en tout cas, voilà.
Est-ce que Europe de la Défense, ce n'est pas juste la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux pays qui, à eux deux, investissent le plus dans l'armement et dans leur défense ?
Absolument. Alors, le contexte, c'est une Europe qui, globalement, baisse ses crédits militaires. Tous les pays d'Europe diminuent leurs crédits militaires. Alors que, par exemple, la Chine, cette année, va encore les augmenter de 10%. Alors que la Russie les augmente, alors que les États-Unis les baissent, mais ils sont à de tels niveaux astronomiques que de toute façon, ça reste et de loin la première puissance du monde. Donc, en gros, nous avons un monde avec des puissances émergentes et qui réarment, des États-Unis qui restent très armés et une Europe qui, elle, désarme. Alors, dans cette situation, effectivement, il y a deux pays qui tirent à peu près leur épingle du jeu, c'est la France et la Grande-Bretagne. Mais nous sommes à la veille de décisions assez dures en France où nous irons une nouvelle fois, je pense, vers une nouvelle baisse de l'effort de défense. Et donc, effectivement, comment faire une dynamique alors que chacun freine ? C'est ça la question. Donc on peut dire, effectivement, il faudrait partager, il faudrait qu'on soit tous associés. Ça, c'est les visions idéales, c'est les visions idéalistes même. Parce que lorsqu'on se retrouve devant des situations réelles, dans le monde réel, et nous avons deux exemples récents, celui de la Libye en 2011 et celui du Mali en 2013, le partenaire de la France, le partenaire historique de la France en Europe, qui est censé être l'Allemagne, à chaque fois n'est pas là. Autre exemple au Mali, un des enjeux de la sortie de crise, c'est de former une armée malienne. Donc l'Europe a créé une mission, il faut 500 militaires pour ça. Donc 200 pour faire de la formation et 300 pour protéger les gens qui font de la formation, en quelque sorte. L'Union européenne a demandé à tous les pays, est-ce que vous voulez mettre des gens ? Les gens ont dit, oui, on veut mettre des formateurs. Bon, ça n'a pas de souci, il y avait plein de gens pour envoyer des formateurs. En revanche, personne n'avait vraiment envie d'envoyer des gens pour les protéger, c'est-à-dire des militaires armés qui seraient éventuellement capables de faire le coup de feu s'il y avait une menace à Bamako. Il ne s'agit pas d'aller se battre dans le nord contre les djihadistes, il s'agit simplement d'assurer la sécurité d'une base. Et bien là, même ça, nos partenaires européens, l'Allemagne en tête, n'a pas vraiment envie de le faire. Donc quand on en est là, effectivement, je pense qu'il ne vaut mieux pas trop se raconter d'histoire.
La faute aussi à l'OTAN qui empêche l'Europe de la Défense de voir le jour ou juste des divisions internes au continent européen ?
Je pense que l'OTAN est une structure qui a le mérite d'exister et de fonctionner. Moi, je n'oppose pas les deux. D'abord, c'est les mêmes pays. Certes, les États-Unis sont dans l'OTAN et ne sont pas dans l'Europe de la Défense, mais sinon, c'est les mêmes pays européens qui sont dans l'un ou dans l'autre. Les guerres sérieuses, et même le Mali, la France a besoin des Américains. Nous avons besoin des ravitailleurs américains, nous avons besoin des drones américains, nous avons besoin du renseignement américain, nous avons besoin de l'appui logistique des Américains, en quelque sorte. Donc il est inimaginable de se passer des Américains aujourd'hui. Opposer l'Europe et les États-Unis, honnêtement aujourd'hui, pour moi ça n'a aucun sens.